BFM Business présente émission spéciale Introduction en bourse. Marc Fiorentino.
Oui, je sais, vous n'avez pas eu la chance d'être un salarié actionnaire de SpaceX, et oui, moi non plus, hein. Je vous rassure tout de suite, mais moi j'ai trois bonnes nouvelles pour vous, c'est pas mal. C'est votre argent, c'est votre week-end, et c'est une émission spéciale, très spéciale, même spéciale, introduction en bourse, effectivement après SpaceX, avant OpenAI, Anthropix, on voulait comprendre le succès phénoménal. Des IPO aux États-Unis, mais aussi analyser les raisons pour lesquelles nous n'avons pas le même phénomène en France, encore, et même en Europe. Et l'idée, c'était de faire venir des spécialistes, des introductions en bourse, donc Euronext, bien sûr, la BPI, des gérants de ce valeur cotée, des dirigeants d'entreprises qui ont coté leur valeur. Tout savoir sur les introductions en bourse dans une émission spéciale, bah c'est parti. Et pour une émission très spéciale, bah vous savez ce qu'il faut pour une émission exceptionnelle. Bah pour une émission très spéciale, il faut des invités très spéciaux. J'ai donc l'immense plaisir de vous présenter les Jedi de l'introduction en bourse. Qui dit introduction dit bourse, qui dit bourse dit Euronext. Alexis Janin, vous êtes directeur des activités de cotation PME ETI France d'Euronext. Merci d'être venu d'abord. Bonjour. Je vais vous mettre sur le gris dans la deuxième partie. La première partie de l'émission, vous allez être détendu.
Super.
On va parler des intros aux États-Unis. Là. Mais alors, la deuxième partie, vous allez souffrir.
J'ai hâte.
On connaît le rôle moteur de la BPI dans le développement du capital risque et du private equity en France. Le formidable succès des dernières années du secteur en France, un peu grâce à eux. La BPI, on le sait moins, est également très active sur les valeurs cotées. Emmanuel Blot, vous êtes directeur d'investissement au sein de l'équipe Capital Développement BPI France. Vous aussi, je vais vous mettre sur le gris en deuxième partie.
Avec grand plaisir également.
Bon, je ne sais pas s'il faut le présenter, vous le connaissez tous. On a une invitée qui ne le connaissait pas, parce qu'elle n'a pas la télévision. C'est un des jurés les plus emblématiques de qui veut être votre associé. Mais ce que vous savez moins, c'est que c'est un serial entrepreneur, et surtout un serial entrepreneur avec deux sociétés côté, ce qui est quand même extrêmement rare, même Scap et Yeva Group. Bonjour Jean-Michel Karam.
Bonjour Marc.
Merci. Vous allez nous expliquer cet amour de la bourse. Hein.
Ouais, je vais expliquer la différence de ce qui s'est passé dans les 25 dernières années.
Parce que vous êtes vraiment un serial entrepreneur, on peut dire ça. Hein, et vous avez fait le choix, vous avez même Scap qui était coté depuis plusieurs années, on va en reparler. Ouais. Et puis vous avez décidé, il y a quelques semaines, de faire coté Yeva Group. Vous allez nous expliquer pourquoi et qu'est-ce qui vous a amené à faire coté cette deuxième société. Dans cette première partie, on va évidemment analyser l'IPO de SpaceX, l'hystérie collective autour de SpaceX, la variation délirante de valorisation. On a quand même pris 1000 milliards en quelques jours après l'introduction et on les a reperdus en quelques jours aussi. Pour ça, il nous fallait une spécialiste des actions américaines. Julie Journon, merci d'avoir accepté de venir. Merci. Vous êtes gérante d'actions américaines chez Amplegest et on va commencer tout de suite avec vous d'ailleurs. SpaceX, intro ou un tox. Ah ouais, Rocketman, les chiffres sont fous. Les records intergalactiques, la valorisation rapportée en chiffre d'affaires, le montant levé, la part des actionnaires individuels, la progression du titre les premiers jours, la chute du titre les jours suivants, le volume quotidien d'échange. Je me tourne vers vous, est-ce que tout ça est bien normal? Et comment vous, qui êtes une spécialiste des valeurs américaines, quand vous voyez un dossier comme celui-là, comment vous l'analysez?
Alors, il faut l'analyser de deux manières. C'est effectivement une IPO totalement hors norme. Ça, là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. À la fois par le montant, à la fois par le projet.
Vous voulez rappeler les chiffres quand même?
Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, on parle d'un groupe qui est valorisé à 1750 milliards de dollars au cours d'introduction.
Qui était 135 dollars.
Voilà, 135 dollars, avec 4% qui est mis en circulation, donc en bourse, que l'on peut acheter. Concrètement.
Et ces 4%, ça représente
à peu près un peu plus de 70 milliards.
Et c'est la plus grosse introduction en bourse, le plus grand montant levé.
Tout à fait.
Depuis la Aramco qui avait levé à l'époque 29 milliards de dollars et on avait trouvé ça énorme.
Spectaculaire.
Donc là, on vient de lever 80 milliards. 80 milliards, c'est la capitalisation d'une grosse boîte du CAC 40, on peut dire ça à peu près. Hein. Voilà.
Complètement. Après, on parle d'un S&P 500 dont la capitalisation, enfin quand on remet les chiffres en fait dans leur contexte, je vous donne juste le montant global de la capitalisation du S&P 500, on est autour de 65 000 milliards. Donc si on ramène ça à 100, on reste sur quelque chose qui est énorme. mais qui est
à l'échelle
tout à
américaine.
Fait absorbable par le marché. Après, ce qu'il faut regarder, c'est ces chiffres-là, mais c'est surtout ce que ça nous dit et le projet qu'il y a derrière. Et là-dessus, il y a deux choses. Il y a la partie opérationnelle et il y a la partie financière et technique. Ouais. Sur la partie opérationnelle, aujourd'hui, on a un groupe qui a trois activités. La première activité, c'est simple, c'est Starlink, on connaît tous. Ouais. C'est de l'opérateur, enfin, pas de l'opérateur télécom, mais de l'opérateur satellite, on va dire.
C'est rentable.
C'est très rentable. On a des marges d'EBITDA qui sont à plus de 60% et on a 10 millions d'abonnés. Okay. Donc ça, c'est la première chose. Ça finance sans doute aujourd'hui le reste, qui sont les lanceurs. Aujourd'hui, on a les Falcon. Il y a eu à peu près 175 lancements sur 2025. Donc c'est énorme. C'est presque 90% des lancements aux États-Unis. Donc c'est colossal. Ça, là-dessus, là aussi, il a créé un leadership absolument fantastique avec des lanceurs, qui sont partiellement réutilisables. Et on a une troisième activité qui est XAI. Donc, avec notamment Colossus, qui est son centre, justement, où il a de la capacité, ce qu'on appelle le compute, qu'il loue maintenant, et ça a été annoncé dans les dernières semaines, pour plus de 2 milliards de dollars par mois. Il loue une partie à Google et à Anthropic. Donc ça, c'est la situation aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on se dit, 100 fois les ventes ou plus.
C'est ça, non, mais c'est ça.
Là, c'est vous venez très de élevé. Dire.
Voilà, et nous, on regarde ça, moi, avec mes yeux de vieux briscard de la bourse et des marchés financiers, je me dis 100 fois le chiffre d'affaires avec des pertes.
Oui, ça, les pertes, ça arrive. Ça arrive pas systématiquement, mais souvent.
Aux États-Unis,
en bourse,
ça fait partie de la culture.
Ça arrive. Ça, c'est pas forcément un sujet.
Anthropique perd de l'argent, OpenAI perd de l'argent, tout le monde perd de l'argent.
Oh oui, mais justement, est-ce que... Alors, Julie, vous êtes gérante, vous regardez ça, vous vous dites, bon, c'est pas grave, 100 fois les ventes.
C'est pas forcément un critère. Il faut regarder différentes choses. Si je reprends l'histoire, puisque on en parle. On a eu, par exemple, si je reviens vraiment en arrière, et qu'on regarde Amazon. Amazon, société historiquement en perte. Ouais. Ils ont eu des pertes pendant... leur profit bénéfice net, ça a été 6 ans après leur IPO. Pour autant, première année de cotation, plus 200% en bourse. Facebook, rentable, profitable la première année. 50% de baisse la première année.
Ah, voilà.
C'est pas forcément...
Ah oui, d'accord. C'est pas linéaire. Un critère.
C'est un critère pour la France.
Non, c'est un critère. Mais ça fait partie... d'un projet, d'une trajectoire et d'un contexte de marché.
Okay.
Tous ces éléments-là, il faut tous les regarder. Là, quand on regarde, 100 fois les ventes, c'est colossal. Franchement, là-dessus, il n'y a rien à dire.
Ça nous rappelle
hors de
quand
proportion.
Même, excusez-moi, ça nous rappelle
c'est
la bulle Internet et la bulle télécom, quand même.
Alors,
Jean-Michel dit, ils ont l'habitude aux États-Unis, la dernière fois qu'ils ont fait ça... Franchement, ça s'est mal terminé. Quoi.
Alors, ça, c'est encore autre chose. Mais juste sur SpaceX, après, je reviens là-dessus. Sur SpaceX, en fait, ce qu'achètent les gens qui investissent dedans, et encore une fois, il a été malin, Elon Musk, parce qu'il a ouvert ça au retail. Beaucoup plus que les autres. Habituellement, on est plutôt autour de 10%,
15%. C'est pour ça que je parle d'intox.
Voilà,
un peu
et lui, il a ouvert à 30%. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, les particuliers sont moins attentifs à la valorisation, mais plus sensibles au projet et à l'homme. Elon Musk, il a montré dans le passé...
Au storytelling.
Le narratif, exactement. Il a montré dans le passé qu'il avait créé une boîte, Tesla. Mmh. Il n'avait même pas créé qu'une seule boîte. Il y avait SolarCity, il y a eu d'autres choses. Ouais. Qu'il en avait fait quelque chose là où tout le monde disait « ça ne sera jamais rentable ». Au bout de 10 ans, elle a été rentable. Mmh. On avait dit...
Que la valorisation s'est cassée de la figure, mais qu'elle est remontée.
Elle est largement remontée. On a dit « ils n'auront jamais des belles marges ». Ils ont eu des marges que beaucoup de constructeurs automobiles auraient rêvé d'avoir. Donc ça, bien évidemment...
Et ils capitalisent l'ensemble de tous les constructeurs automobiles du monde, quasiment.
Exactement. Donc ça, c'est ce que regarde.
Donc on mise sur le gars, en fait.
On mise là-dessus, et puis sur son projet. Ouais. Parce que son projet, c'est pas juste ça. Son projet, c'est que Starlink, encore une fois, passe en... Alors, c'est un peu technique, mais passe en orbite basse. Ouais. Parce que dans ce cas-là, il n'y a plus véritablement de latence ou très peu quand on téléphone. Et de ce fait, on peut concurrencer les opérateurs télécoms. Ça, c'est la première chose. Donc, on aurait plus de 10 millions d'abonnés, mais potentiellement beaucoup.
Et puis, Jean-Michel, j'ai envie de faire un tour de table pour vous demander vraiment à chaud, qu'est-ce que ça t'inspire, Jean-Michel, cette intro?
J'étais vraiment, je vais te dire exactement ce que je pensais, j'étais très 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 combatif, et l'introduction de SpaceX arrive. Et c'est comme tu montes sur le ring, et on te met un coup dans la tête, et tu vois les étoiles tourner.
Ouais, c'est le cas.
C'était pour moi très violent, parce que c'est là où je me suis rendu compte qu'on est dans un autre monde.
Une autre planète, j'ai envie de dire, même.
Oui. Alors, Amazon, tant d'années hors rentabilité, l'action monte, et un gérant français qui dit, c'est pas grave, il faut regarder les choses d'une autre manière. Ce qui est la première fois que j'entends ça à Paris. Hein.
Ouais, parce qu'elle traite les actions américaines.
Ben voilà, parce qu'elle ne fait que traiter l'Amérique, donc son cerveau, il est devenu américain. Nous, on va en bourse, on dit, en 5 ans, on a créé une boîte de scratch, Yeva Group. On la ramène à 50 millions de dollars en 5 ans. C'est la dernière année de perte. L'année prochaine, là, cette année, 2026, ouais, on switch dans le vert. On dit à tout le monde, de A à Z, on a consommé quoi, 10 millions, enfin, ouais, c'est rien. Et investir en plein milieu de mon introduction en bourse, tu fais une tartine comme ça sur Yeva en disant que c'est magique, c'est génial, c'est le meilleur machin, avec mon historique, 2 cotations.
On en reparlera.
Et qu'est-ce qu'elle met à la fin? Rester à l'écart, ils ne sont pas rentables.
On en parle en deuxième partie. Non, Emmanuel, oui, tout cas, quand tu regardes ça en gérant, déjà, toi, tu es gérant, on te propose SpaceX, tu fais pas ça, mais on te propose SpaceX, tu t'en fais ou pas? Qu'est-ce que tu dis?
Je pense que je suis assez aligné avec les valeurs en termes d'investisseurs personnels et là où je travaille. Donc, je suis assez risque averse et assez long terme.
Justement, je lui dis, c'est du long terme.
C'est du long terme. Donc là, je pourrais me sentir.
Je dis pas qu'il faut en acheter. Hein.
Non. J'ai compris. Non, mais
je suis aussi assez, j'allais dire, attaché aux fondamentaux. Et là, clairement, on atteint, comme tu le disais, la limite de ce qui est visible. Et ce qui passe de le réel, le concret et la croyance l'objectif. Et c'est pour moi, le SpaceX, c'est très bien parce que ça montre aussi qu'une introduction en bourse, c'est le quoi, c'est la société, mais c'est aussi le comment. Ouais. Et c'est le comment qui a été très, très bien réalisé sur SpaceX, en tout cas à date. On va voir.
Quand tu dis le comment, c'est-à-dire le fait d'avoir
process,
fait venir des particuliers.
La communication, le choix de.
En fait, il a tout imposé, lui. Hein. Il a imposé des règles de gouvernance qui sont quand même dramatiques. Hein. Il a des droits de vote. Ouais. Enfin, il a tout. C'est-à-dire, nous, on ferait ça en France, on se ferait dégommer. Juste avant de rentrer, on va parler dans la deuxième partie de la comparaison qui a fait un peu cruelle de Jean-Michel. Mais aujourd'hui, toi, tu représentes Euronext. Quand tu vois cette réussite hein, d'opérations comme ça, là, on va parler des autres après. Tu te dis quoi? Tu te dis bon, c'est pas grave, c'est un autre monde, un peu comme Jean-Michel. Et puis c'est pas grave, c'est comme ça, quoi. Ou tu te dis qu'est-ce qu'ils font de bien? Voilà. Qu'est-ce qu'ils font de bien, les marchés américains?
C'est un autre monde. Alors, je ne sais pas si c'est les marchés américains, mais c'est une société qui est hors norme. C'était très bien évoqué.
Mais il n'y a pas qu'elle, en fait.
Ça opère sur des marchés hors normes, avec des barrières à l'entrée hors normes et un potentiel de croissance extraordinaire.
D'accord.
On a peu de sociétés qui réalisent du spatial, de l'infrastructure télécom et de l'IA et qui concentrent tout ça. Il y a déjà un projet qui est absolument incroyable.
D'accord.
Et ensuite, c'était évoqué, il y a un homme derrière ça, il y a un narratif qui est incroyable. On le disait, tu le disais, on change de planète, c'est exactement ça. Avec lui, c'est plus Sky is the limit, c'est Mars is the limit. Ouais. Donc on change vraiment de paradigme. Et ça, c'est quelque chose, c'est un cocktail qu'on ne connaît pas ou assez peu en Europe et qui change un peu la...
Alors attends, c'est intéressant ce que tu dis, parce que toi, tu dis, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, on parlera de l'Europe après, mais toi tu dis c'est une question de société. Moi j'ai l'impression aussi que c'est une question de structure de marché, de mentalité, de... Non ?
Alors, non, mais Alexis, bien sûr, on y reviendra. Ça, c'est plus large. C'est qu'est-ce que les États-Unis ont pour financer ces sociétés que nous n'avons pas.
Oui.
Mais ça, on le sait tous autour de la table. On peut se financer à hauteur de centaines de milliards de dollars, voire de milliers de milliards de dollars aujourd'hui en capital privé. Et chez nous, non.
Okay.
Pour faire grandir ces sociétés. Pourquoi ? On le sait, on est la deuxième zone d'épargne au monde. On a 11 000 milliards aujourd'hui qui dorment sur le compte des Européens et qui ne sont pas fléchés vers les entreprises.
Et c'est Emmanuel. L'aspect de profondeur de marché, clairement, comme disait Alexis. L'épargne dort, mais il y a aussi une question de l'unicité du marché. Les États-Unis, c'est un marché où il se passe énormément de choses, où il y a beaucoup d'investisseurs. L'Europe, c'est encore malheureusement
fragmentation.
Morcelé.
D'accord, donc, ça, tu penses que c'est un élément important. Jean-Michel,
pour moi, il y a plusieurs choses. Il y a la dimension américaine, ouais. Il y a l'américain, le plus petit américain, il a 200 dollars, il les met en bourse, et le politique qui, lui, ne réfléchit qu'à la bourse, parce que si l'argent...
On a un président qui suit...
Mais il n'y a pas que Trump. Ouais. Avant, okay. C'était pareil. Ça veut dire qu'un président américain, il pense que si la bourse monte, le plus petit, le plus pauvre américain va être heureux, donc lui, il va être réélu. Donc, il va tout faire pour que la bourse monte. Et puis, une foi dans des hommes et des individus qu'en Europe, parce qu'on parle France, mais il faut qu'on parle Europe pour pouvoir tenir... On n'a plus. Ça veut dire que Elon Musk, c'est vrai que c'est un type qui est génial. Le projet d'Elon Musk, c'est même au-delà du truc. Il y a des choses comme le HPC là, qui va te mettre dans les satellites et pas avoir besoin de refroidir, etc. Il est le seul à pouvoir les lancer là-haut. Donc, il y a énormément de choses. Et moi, par exemple, est-ce que j'investirais dans une boîte qui fait 100 fois le chiffre d'affaires en valo? Oui.
Mais est-ce que tu... Oui, mais justement, attends, j'ai envie de te dire un truc, et je me tourne vers la gérante. Dans la façon dont vous étudiez, Julie, les sociétés, bah, il y a quand même le risque homme. Là, on a un gars qui tourne à 200%, 1000% par rapport à nous, 2000% de sa journée. Je veux dire, c'est le cas de dire, il peut exploser en vol. Je veux dire, on mise tous sur lui. C'est-à-dire qu'il y a 1500 milliards de Tesla, et puis maintenant, il y a 2000 milliards, il y a 3500 milliards sur la tête d'un homme. C'est quand même un risque pour un gérant, non ?
Bien sûr, et ça tout à fait. Mais tout comme la gouvernance et en même temps, en fait, les investisseurs, effectivement, c'est un risque, mais c'est aussi une opportunité, encore une fois. Donc ça dépend de la façon dont on le regarde. Aujourd'hui, c'est considéré comme une opportunité, ça sera potentiellement un risque. Voilà.
Mais Steve Jobs, il est mort.
Pareil. Oui, c'est
Cook
ça, c'est ce que j'allais dire.
10 fois mieux.
Absolument, c'est vrai que c'est un très bon exemple.
Si on va 10 fois mieux, mais voilà.
On va passer. Je voudrais qu'on passe 2 secondes aux autres intros de l'IA, notamment OpenAI, dont on pense qu'elle va être décalée, mais aussi Anthropique. Donc, on a l'impression, Julie, que dans le monde des IPO américaines, l'unité de mesure, c'est devenu 1000 milliards. On rentre plus maintenant pour en dessous de 1000 milliards. Quand même, je veux pas jouer les vieux cons que je suis, mais ça me rappelle quand même un peu, excusez-moi, je sais, vous allez me dire Amazon, Google, ok, mais il y a eu quand même beaucoup de casses sur des sociétés qui étaient valorisées X fois les pertes. On n'a pas ça aujourd'hui. Il y a une bulle ou pas? C'est ça ma question.
Alors, la façon dont on le regardait, il y a deux manières. Il y a les pertes, dans ce que vous dites.
Ouais.
Et puis, donc les pertes, alors là, c'est vrai.
Et les ratios de valo.
Et il y a les ratios de valorisation, il y a les pertes, il y a le chiffre d'affaires et il y a la trajectoire. Ça, c'est vraiment ce quand on regarde. Aujourd'hui, par exemple, si je prends l'exemple d'Anthropique, 47 milliards de chiffre d'affaires attendu en run rate, donc là c'est les derniers chiffres, sur 12 mois. Ça veut dire qu'ils vont faire potentiellement plus que ASML, la plus grosse capitalisation boursière européenne.
Okay. Voilà. Donc vous dites c'est
pas... Okay. Après, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas faire des pertes. Sauf qu'Anthropique, on dit la rentabilité, c'est à portée de main. Ouais. C'est-à-dire qu'on considère qu'il pourrait faire un premier profit cette année.
D'accord.
Et être à l'équilibre en 2028. Donc là-dessus, c'est pas forcément la même situation.
OpenAI,
c'est un peu différent. Ouais. OpenAI, ils sont sur un chiffre d'affaires attendu sur cette année autour de 25 milliards.
Ouais.
D'accord. Là encore, si on prend des comparatifs, c'est Hermès plus Ferrari. Voilà, pas juste pour donner un peu.
Mais pas le bottom line de Hermès.
Ah, bien sûr que non, évidemment. Voilà. Et pas la même valorisation, bien évidemment. Non. Mais juste en termes de chiffre d'affaires. Et eux, effectivement, ils décalent parce qu'ils ne seront sans doute pas profitables tout de suite et qu'ils ne veulent pas, visiblement, remettre en cause l'idée d'une valorisation à moins de 1000 milliards.
Mm-hmm.
Donc. À voir. Mais derrière.
C'est quand même dingue. C'est-à-dire qu'ils se disent, on va pas s'emmerder parce qu'en dessous de 1000 milliards, je vais pas me déranger, en fait.
Je reste chez moi,
j'ai pas besoin de me lever pour moins de 1000 milliards.
Ils anticipent qu'effectivement, leur chiffre d'affaires, il devrait passer de 25 milliards à plus de, je crois, 260 d'ici 2030. Donc, en fait, une hausse extrêmement rapide de leurs ventes. Après, en termes de valorisation, tout change très vite et c'est là où on verra le moment venu s'il y a des valorisations qui sont complètement délirantes ou pas. Ça, aujourd'hui, on n'en sait rien.
Emmanuel, j'ai une question. La BPI investit sur des valeurs américaines ou pas du tout ?
Américaines, non.
D'accord, c'est pas dans vos statuts.
Non, c'est clairement pas notre priorité.
Et tu te dis,
et
toi,
on a déjà notre chanson,
Et toi, tu dis, toi, en gérant, quand tu vois passer ça, tu dis, ça m'emmerde, j'ai l'impression de jouer
non,
en national.
Non, mais comme ça a été très, très bien dit, aujourd'hui, on n'a pas d'indication claire que les attentes ne seront pas atteintes. La croissance est là, le chiffre d'affaires est là, et la profitabilité arrive. On a des indications aussi que, effectivement, l'IA coûte, notamment pour les entreprises, de plus en plus cher. Donc, ça veut bien dire que ces acteurs-là pensent à l'étape d'après, ou ils sont déjà dans l'étape d'après. Donc, encore une fois, on est à la frontière, effectivement, de est-ce qu'on y est, est-ce qu'on n'y est pas. Il y a quand même des objets ou des sujets matériels aujourd'hui.
Alexis, Euronext est présent ou pas du tout aux États-Unis?
Pas du tout.
Est-ce que vous dites, quand vous avez des réunions, tiens, au lieu d'acheter la bourse de Milan, on aurait peut-être dû acheter une petite bourse aux États-Unis ou...
Je crois que ce n'est pas l'ADN et le projet du groupe. Comme c'était très bien évoqué, aujourd'hui, on a un grand enjeu qui est de continuer à fédérer tous nos pays et à connecter nos bassins d'épargne, parce que c'est 11 000 milliards. Même si on a connecté 8 bourses jusqu'à maintenant, il en reste un peu partout en Europe. Et je pense qu'on a déjà du travail à faire sur cette partie-là.
Vous avez combien de
sur le trading, 8.
8 bourses.
Et continuer aussi à enlever les autres frottements en fait qu'il existe sur toute la chaîne de valeur boursière, pas que sur le trading, mais sur le post-marché.
Quand tu dis les frottements, c'est quoi les difficultés?
En fait, plus il y a de systèmes d'information.
Ce que dit Emmanuel est vrai, c'est-à-dire le fait que ça soit fragmenté, qu'on soit pas un marché unique. Tu le ressens, toi, ça...
Ben en fait, il y a une double fragmentation. Il y a des bourses, c'est ce qu'on voit dans les différents pays, et puis ensuite il y a les chambres de clearing, de compensation. Il y a les dépositaires centraux. En fait, c'est autant de systèmes d'information
qui compliquent.
Qui compliquent, qui rendent plus onéreuses, qui font qu'il y a moins d'investisseurs qui sont connectés. Et en fait, c'est ça qu'on appelle connecter les économies.
Jean-Michel, quoi, par exemple, tu te dis, tu as une partie de ton activité qui est aux États-Unis.
Oui.
Tu te dis, pourquoi je me ferais pas coter là-bas?
En fait, quand Memscap était coté il y a 25 ans, je l'ai coté à Paris. Et il y a une chose qui est très importante que je voudrais que tout le monde sache.
Ouais.
J'ai coté deux boîtes en 25 ans d'écart. Et rien que si je vous dis la différence, vous comprenez ce qui est arrivé à notre pays, en fait. Ça veut dire qu'il y a 25 ans, j'ai levé 101 millions. Mon livre, il y avait 270 millions. J'ai rencontré 193 investisseurs. Je prépare une note là-dessus pour LinkedIn. 193 investisseurs. Ça veut dire que les banquiers qui m'ont amené, ils ont fait le boulot qu'on
C'était
fait aux
États-Unis.
C'était
une cabine combien?
430.
OK.
138 fois mon chiffre d'affaires. Donc, ils font un prix marketing, ils disent go, j'y vais, parce que tu dis, t'as une profondeur de 193.
Bah oui, gérant.
Machin, j'aurai quand même 25% de tout ça et je serai en bourse, etc. J'ai une crise au plein milieu, je passe quand même. 25 ans plus tard, avec Eva Group, je dis, est-ce que je vais aux États-Unis? C'est là-bas où je dois y aller, pourquoi je vais ici? Après, on dit, ouais, 1 million de coûts. 1 million à préparer dans les class action.
C'est beaucoup plus cher de s'introduire
beaucoup
en bourse.
Beaucoup plus cher, et puis tu as les class action à compter en plus.
Donc, vas-y, explique 2 secondes.
Alors, en fait, aujourd'hui, coter une boîte à Paris, etc., le run rate de coût, 100-150 000 euros par an. Aux États-Unis, minimum 1 million, même pas à réfléchir en dessous. Je parle de small mid cap.
Là, tu parles à l'année, tu parles pas du coût d'introduction.
Non, je parle à l'année tout le temps, small mid cap.
Ouais. Hein.
Et puis, tu as en plus... Aux États-Unis, quelque chose qui s'appelle le class action.
Ouais.
T'as dit un mot que ça n'a pas plu aux gens. Pof, ils se regroupent, ils t'attaquent. Même s'ils doivent perdre, toi, tu sais que ça va te coûter de l'argent. Tu settles. Donc, t'as dans ton budget, tout le temps, une ligne de à peu près 1 million, 1,5 million tous les ans, machin. Donc, ça, c'est un frein. Donc, moi, du coup, j'y vais sur Paris. Mais attends, j'y vais à Paris. Combien il y en a de fonds à Paris? 15.
Sur les small et mid-cap.
Small mid-cap, 15. Donc, j'ai dit, genre, t'as pas la profondeur. Il te faut un cornerstone. Heureusement qu'il y avait la BPI, mais heureusement, parce que la BPI, ça tombe bien, il lance Blue Spring, qui est un nouveau fonds pour les small mid cap. Je suis le premier dessus. On travaille avec la BPI, ils nous disent OK, on y croit dans le dossier, on y va.
Sans ça, tu serais
40% de l'enveloppe.
Sans ça, tu serais pas sorti.
Mais tu peux pas. Et heureusement aussi que j'étais connu. Et que j'ai eu 30%
et que tu avais ton track record, on va en parler tout de suite. Merci beaucoup Julie, merci beaucoup, on va vous laisser partir, on va continuer avec ces gars-là. Pas tout de suite. Et on se retrouve nous en deuxième partie de l'émission, là ça va être un peu plus dur pour certains des invités, on va parler des plaintes justement de
Alexis
Jean-Michel.
Alexis est en train de se braquer.
Alexis a envie de partir, et il est en train de dire à Julie, non, ben, Julie vous restez, c'est moi qui pars. Allez, on se retrouve tout de suite.
BFM Business présente émission spéciale Introduction en bourse. Marc Fiorentino.
Ça a chauffé déjà en première partie, mais ça a chauffé encore plus en deuxième partie. Après les États-Unis, on va s'intéresser aux introductions en bourse, comme dit Jean-Michel, en France, mais aussi en Europe, avec notre Jedi de l'introduction en bourse, Alexis Janin, qui avait envie de partir avant le début de la deuxième émission. Vous êtes directeur des activités de cotation PME, ETI, France d'Euronext. On ne va pas être méchant avec vous. Emmanuel Blot, vous êtes directeur d'investissement au sein de l'équipe Capital Développement BPI France. Jean-Michel Karam, tu es au-delà de ta célébrité en tant que juré de qui veut être mon associé. Tu es à la tête de deux sociétés cotées à Paris, Memscap et plus récemment Yeva Group. Et on a le plaisir de recevoir Guillaume Gibault. Tu es le président et fondateur du Slip Français, une marque bien connue du grand public. Et si on t'a invité aujourd'hui, c'est que tu as annoncé le 25 juin,
jeudi 25 juin,
l'introduction en bourse du Slip Français. On va en parler tout de suite. On va démarrer tout de suite par les IPO en France. Bon, Alexis, est-ce que tu peux nous planter le décor? Combien d'IPO à Paris en 2025 et en 2026?
Je peux te planter le décor, tout à fait. C'est une année de transition. 2021, comme vous le savez, dans le monde, en Europe et en France, des records dans tous ces pays du nombre d'introductions, changement de paradigme monétaire, augmentation des taux, baisse du bilan des banques centrales, disparition en grande partie des grands institutionnels de l'equity, parce que c'était facile d'avoir des actifs non risqués sur du monétaire et puis ensuite sur de l'obligataire. Et petit à petit, on voit qu'ils reviennent sur les introductions en bourse. En France, du coup, on a touché un plus bas en 2025 sur le nombre de nouvelles cotations. On était à 11 nouvelles cotations, dont 3 IPO, et environ 70 millions d'euros levés. En revanche, pour nous, c'est pas le seul baromètre des marchés, comme tu le sais, Marc. Il y a qu'est-ce qui se passe sur les sociétés qui sont déjà cotées. Ouais. Et en l'occurrence, en 2025, on a déjà eu un signal très fort, c'est que les fonds levés par les small and mid cap cotés en bourse n'ont jamais été aussi élevés que depuis 5 ans. Ils ont levé 2,4 milliards l'année passée sur un peu plus de 60 opérations. Donc ça, c'était le premier signal positif qu'on attendait, de dire est-ce qu'il y a à nouveau de l'intérêt, de l'appui des investisseurs institutionnels pour accompagner les sociétés cotées. Il était là. 2026, c'est le prolongement de ça. On a la chance d'avoir deux entrepreneurs sur ce plateau qui ont réalisé, soit qui vont réaliser une IPO. Il y en a eu déjà une en début d'année avec Rising Stone, un spécialiste de l'immobilier de luxe en montagne. Et il y a eu deux autres cotations techniques. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on en attend normalement plus que ça d'ici la fin de l'année, donc avec un pipe qui se densifie, pour être très clair, et qui reprend du volume.
Donc tu es plutôt optimiste sur l'avenir?
C'est une période de rebond, très clairement. On expliquera pourquoi. Après, une période qui était déceptive ces deux dernières années.
Alors, j'ai une question à poser, Jean-Michel, tu interviendras, Emmanuel aussi. Avant qu'on parle, à la fin, on parlera du slip. Mais je me rappelle quand on s'est rencontré, Guillaume, tu t'hésitais, hein, on peut être transparent. En fait, tu ne pensais pas du tout à la bourse.
Non. J'avais le préjugé, comme beaucoup de dirigeants, que c'est compliqué, que c'est beaucoup de contraintes, que c'est compliqué à faire.
Et surtout,
qu'on était trop petit.
Et en fait, toi, tu as déjà fait appel au crowdfunding.
On avait fait une levée obligataire sur la plateforme d'État.
Et tu t'étais dit, tiens, si j'ai besoin de lever de l'argent, pourquoi je ne referais pas en fait du crowdfunding? Et en fait, je t'ai dit à ce moment-là, quand on s'est rencontrés, je t'ai dit, mais en fait, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi les gens ne comprennent pas, et là je me retourne vers toi, Alexis, que finalement, Euronext, parce que ce que tu dis, Jean-Michel, est vrai, c'est-à-dire qu'il faut flécher l'argent. Mais l'argent, il y en a, parce qu'on voit sur les plateformes de crowdfunding, il y a quand même des levées complètement dingues qui se font en un temps record.
On a vu Gringotts, là, récemment.
Voilà, avec très peu d'informations, avec pas de contrôle.
Pas de contrôle.
Pas de contraintes, pas de liquidité, d'accord. Et moi, j'ai dit à Guillaume, mais en fait, la première plateforme de crowdfunding...
C'est Euronext.
Pourquoi...
Embaucher quelqu'un en marketing.
Alexis, vraiment, ça me tient à cœur. Pourquoi vous vous vendez pas comme ça? C'est-à-dire que, je veux dire, quand tu vois toutes les plateformes, la plus belle plateforme, c'est vous quand même.
Alors, je suis tout à fait aligné là-dessus. Comme tu le sais, on a gagné 40% d'investisseurs individuels en 5 ans.
Mais oui.
C'est 1,5 million d'investisseurs.
Mais vous avez la plus belle communauté.
Tout à fait.
Et qu'est-ce qui fait que les gens, si demain le slip va sans payer de communication, rien, sur une plateforme, Ils vont lever 5 millions. Franchement, il se passera rien. Les gens vont mettre 2000, 3000. Ils vont même pas regarder les chiffres. Et qu'est-ce qui fait que là, il est obligé de faire une campagne de communication, il est obligé de convaincre les gens d'y aller pour lever de l'argent?
Peut-être que déjà, il lèvera beaucoup plus, je ne sais pas, pour l'instant. La réalité, c'est que ces dernières années aussi, on a eu des sommes extraordinaires qui ont été souscrites sur les small caps. Je rappelle HRS 2021, sur le projet, 90 millions d'euros souscrits par les particuliers sur une société qui faisait 2,5 millions de chiffre d'affaires à l'époque et qui était en perte. Plus récemment, Semco, qu'on a accueilli, une petite société grenobloise absolument inconnue du grand public. Ils ont eu quand même...
Industriel,
qui plus est. 28 millions de demandes. En fait, la possibilité, elle est là. Elle est ouverte à tous.
Je veux dire, l'argent, il est,
l'argent, il est là.
D'accord, les Français épargnent.
Mais il y a beaucoup d'épargne.
Attends, mais Jean-Michel, toi qui connais bien les communautés, t'es un animateur de communautés. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à fédérer des communautés sur des plateformes action, et pas chez Euronext?
Il faut une action globale. Moi, je pense que...
On est là pour ça. Hein.
Justement, c'est ce genre d'émission. En fait, regarde, aux États-Unis, on parle des États-Unis, mais passe devant n'importe quel écran, à n'importe quel temps, en prime time. T'as une petite barre en bas où les chiffres de la bourse tournent tout le temps. Les gens, ils ont cette économie. Il faut qu'on, cette information sur l'économie. Il faut qu'on bouge les gens pour qu'ils comprennent c'est quoi la bourse. Moi, je ne peux pas me pleurer parce qu'à mon IPO, j'ai eu 2500 particuliers qui ont investi 30% de mon enveloppe et qui ont permis. Machin. Alors, même Euronext, la lance IPO Go, donc, que je représente un peu, je suis ambassadeur pour eux. Donc, on est en train d'essayer de faire des choses.
Moi, je l'aborde par un autre aspect.
Vas-y, parce que toi, t'as un œil neuf.
Un œil neuf et une ADN très collaborative. Nous, on a toujours voulu embarquer les clients d'entreprise. Le slip français, c'est 850 000 clients particuliers.
D'accord. C'est une communauté.
C'est une communauté de gens qui ont envie de mettre leur slip en action, d'acheter des slips, de soutenir l'industrie française. Je le rappelle, c'est plus d'emplois. En ce moment aussi, c'est moins de CO2. C'est quand même important de le dire. Donc, on est entreprise à mission, on est labellisé Bicorp, on essaie de tout bien faire. Et effectivement, nous, on se dit comment est-ce qu'on embarque les Français au capital de notre entreprise? Parce que depuis le début, je me dis, s'ils sont actionnaires, ils vont pas aller acheter leur slip ailleurs. En plus, ils sont très fidèle à la marque de sous-vêtements. Donc bref, avec Léa qui est directrice exécutive à mes côtés, on se dit on a retourné la boîte, on a trouvé un modèle économique grâce à notre usine. Comment
vous êtes rentable?
On est rentable, on fait en 2025 21 millions de chiffre d'affaires. C'est une petite entreprise, oui, mais on fait 2 millions d'EBITDA et 704 résultats nets positifs. Petite entreprise, mais rentable. Et quand on vient à l'usine, on se rend bien compte qu'en fait, on fabrique nous-mêmes des sous-vêtements de façon compétitive pour les vendre à un prix de marché. Et donc on se dit, c'est quoi l'avenir? C'est qui sont les actionnaires naturels d'une entreprise à mission qui fabrique en France, crée de l'emploi et moins de carbone? C'est les Français. Et donc, c'est quoi la bonne plateforme pour faire un investissement populaire? Et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, le crowdfunding, qui est un super levier, peut-être qu'il atteint certaines limites aussi. Et nous, on est venu chercher justement cette rigueur d'exécution. Et dans l'instruction du dossier avec l'AMF, en fait, là, on est confronté à faire quelque chose de très précis.
Mais cette rigueur-là...
Mais qui est plutôt une bonne nouvelle. Je dis, on vient la chercher pour dire, en fait, on va pas demander de faire un don. On est une entreprise avec projet de croissance.
Mais moi, moi, ce qui me rend dingue, c'est que je comprends tout ce que tu dis, mais d'un côté, t'as l'impression que tu donnes plus de rigueur, tu donnes de la liquidité, tu donnes tout, et les gens vont sur les plateformes de crowdfunding et ils vont
faire. Oui, mais Marc, les plateformes de crowdfunding, à part quelques cas, ça lève pas beaucoup d'argent.
Ben si, ça lève, il y a quand même. Ça lève tous les jours. Non, les montants sont colossaux. Je suis pas d'accord.
Si je prends un œil neuf, en fait, je pense qu'ils sont plus forts en marketing, D2C, en fait. Et aujourd'hui, si on prend les plateformes Crowdcube ou Lita, en fait, l'expérience client, elle est quand même très, très fluide. On voit le projet bien présenté, la vidéo. Il y a peut-être moins de contraintes, de disclaimer, de machin, mais en fait, c'est facile. Ils sont très forts en CRM. Là où aujourd'hui, moi, je vois dans la fabrication de notre site, le slip en action, qui est le site dédié à l'opération, en fait, à la base, on nous dit, il faut mettre un bon de souscription PDF.
Ouais.
Aujourd'hui, oui. Je pense qu'on a du mal à capter des gens en souscrivant en PDF.
Alexis, après Emmanuel. Marc, peut-être, passons quelques chiffres, parce que là, je pense qu'on se perd un peu dans ce débat. Aujourd'hui, la liquidité, c'est-à-dire à la fois les fonds levés et les fonds qui sont échangés tous les jours sur Euronext Paris, sur les valeurs moyennes. Si on prend ce premier trimestre et qu'on le duplique, ça va être 30 milliards. Là-dessus, c'est 30% de participation des particuliers sur la Bourse de Paris. Donc, on se parle de quoi ? De 10 milliards.
D'accord.
Je voudrais bien qu'on fasse le calcul de ce qui est levé sur les plateformes de crowdfunding françaises. Je pense qu'on n'est pas tout à fait dans le même genre de réalité.
Non, tu parles d'échange. Moi, je te parle de levée.
Les dons des soutiens, et je reviens à mon chiffre de tout à l'heure, 2,4 milliards levés par les entreprises small et mid-cap françaises l'année dernière en France. C'est ces chiffres dont on se parle. Et c'est à la fois de la new money et de la monnaie qui s'échange, parce qu'effectivement, on a le droit de changer d'entreprise, c'est vrai de que passer du slip à Yeva. Ça n'a strictement rien à voir.
Alors que la bourse,
mais oui, c'est... Mais évidemment, mais c'est pour ça que, Alexis, on taquine, mais en fait, nous, on veut tous que ça marche. On est là pour ça. Et Emmanuel, oui. Moi, je voudrais saluer d'abord votre initiative, parce que franchement, bon, alors, on va dire quand même, je fais un petit clin d'œil à Nicolas Dufour.
Ouais, c'est les Jedi.
Que ça fait un petit moment qu'on essaye de le convaincre
qu'on les a.
Pour pousser les
je faisais partie de la même équipe.
Il a été convaincu et il a mis quelqu'un de compétent pour s'en occuper. Vous avez lancé un fonds spécialisé sur le small cap. Ça, c'est une super bonne nouvelle, parce que je rappelle que le capital risque en France a quand même bien démarré le jour où vous avez décidé de l'appuyer, et aussi c'est moi qui le dis.
On veut apporter notre pierre. Okay. Donc, c'est clairement ça l'objectif de ce nouveau fonds, c'est d'apporter notre pierre à des initiatives, comme on l'a dit, qui se multiplient, parce qu'on sent effectivement qu'il y a une demande. Et je pense que Alexis pourra aussi nous éclairer là-dessus, mais les jeunes, de plus en plus, sont éduqués financièrement, s'intéressent à ces sujets-là. Et là aussi, il va y avoir, j'allais dire, une demande à combler. Et maintenant, c'est trouver de l'offre, excusez-moi de parler dans ces termes-là, mais d'histoire, d'entrepreneurs, pour justement intégrer, créer ces communautés-là. Je suis assez, j'allais dire, optimiste, mais c'était l'idée de ce fonds-là, de participer, que BPI France avait aussi une mission de, plus tôt possible...
C'est une très bonne nouvelle pour le marché. On est très contents, en tout cas pour nous, c'était une très bonne nouvelle.
Et moi aussi.
Jean-Michel, je voudrais revenir à toi deux secondes, tu as déjà défloré un peu le sujet, ça sera on t'a mis une petite musique pour un générique. Ça te rappelle quelque chose, non? Alors Jean-Michel, toi t'es quand même un exemple à part, t'avais une société cotée, donc t'as coté il y a 25 ans, tu nous l'as expliqué. Moi, je t'ai croisé plein de fois, hein, et t'étais quand même assez frustré par la valorisation de la boîte à plusieurs reprises, et quand même, tu reviens. T'es masochiste ou t'es visionnaire?
Ouais, parce que moi je...
Parce que tu recotes une deuxième société.
J'ai beaucoup d'espoir dans ce pays, c'est franchement, bon, il faut dire les choses, je suis arrivé en France, j'avais rien... Donc, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait en France. Donc, je crois... J'ai connu des années de gloire magique à Paris. L'année de l'IPO de Memscap, ces années-là...
C'était quelle année, ça?
2001.
Ouais.
On était, franchement... C'était ça,
on top of the world.
Du lourd. Et je crois que ça peut revenir. Il suffit qu'on ait un mouvement d'ensemble. Tu sais, on fait plein de choses aujourd'hui avec Yvette Monassi Amplify, où on booste des entrepreneurs. Je pense que...
Mais attends, tu boostes des entrepreneurs, tiens, je vais te taquiner. Ouais. Est-ce que tu fais une session pour les pousser à aller en bourse?
J'ai des trucs sur la bourse, je te promets.
Tu me feras venir.
J'en ferai tout le temps, oui. Et en fait, ce que j'étais en train de dire à Michel d'ailleurs, il faut qu'on fasse un truc uniquement pour les sérieux, pour les pousser. J'ai fait deux sessions.
On vient avec Alexis
Euronet,
là, et on fait
donc,
ça.
En fait, moi je pense qu'il faut... qu'on crée un maximum d'entrepreneurs, que le pays devient une terre
d'entrepreneuriat. Ils sont là, les entrepreneurs.
Quand les DOP...
Ils sont là.
Je suis content de...
On n'arrive pas à faire le lien, ils le font. Hein. Mais il faut qu'on fasse le lien entre la bourse et les entrepreneurs.
Exactement. Mais tu as dit une chose très importante. C'est vrai que la BPI a fait un travail monumental au niveau du capital risque, donc au niveau des premières phases des entrepreneurs. Et là, l'arrivée de Blue Spring, ce que Emmanuel a fait, bon, moi, j'ai bénéficié de ça, donc je peux pas dire que du bien. Je peux dire que du bien sur ça. Mais ça, c'est quelque chose qui est énorme, parce qu'on a besoin de petits stimuli. Ça, c'est un stimuli. Si on fait d'autres réformes où on pousse un peu les épargnants français, comme dans l'assurance vie, à mettre 5% de leur épargne sur les small mid-cap, on explose. Et une fois que ça part. Hein. Et la bourse, en fait, c'est quelque chose qu'une fois que ça mousse, ça monte. Et une fois que ça casse, ça casse. On le sait.
On passe tout de suite à toi, Guillaume, parce que c'est quand même sympa de t'avoir là dans l'actualité. Donc, le 25 juin, tu as annoncé ton introduction en bourse sur Euronext Growth. Pourquoi, en fait? Pourquoi la bourse? Et comment ça s'est passé? Alors, je parle pas de l'introduction puisqu'elle est pas terminée, mais au moment où on diffusera, tu seras encore levé. Mais le process lui-même, comment tu l'as vécu, toi?
D'abord, pour rebondir à ce qu'il vient de dire avant, il y a plein d'entrepreneurs super, mais faut rappeler que l'entrepreneuriat, c'est du travail, et exclusivement du travail, de la patience, des hauts, des bas. Moi, ça fait 15 ans. Donc la bourse, c'est pas une idée que j'ai toujours eue en me levant le matin. Moi, je veux créer de l'emploi dans mon pays, minimiser un impact carbone, être fier de ce que je fais et embarquer les clients avec moi. Et ça, c'est mon point de départ. Depuis 15 ans, je n'ai pas bougé d'un centimètre là-dessus. Aujourd'hui, l'entreprise fait 21 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'ai galéré pendant 12 ans pour trouver un modèle économique pour fabriquer en France. à force de travail, je l'ai trouvé grâce à Léa, qui est directrice exécutive à mes côtés, qui est ingénieur textile et qui trouve à l'usine la façon de fabriquer de façon compétitive. Ça fait 700 000 euros de résultat net positif pour une boîte qui fabrique tout en France. On s'est toujours démerdé tout seul. On n'a jamais eu d'aide de personne. Pas de subvention, rien. On s'est toujours démerdé tout seul. Et dans cette opération, pareil, on se dit, qui nous a toujours soutenus, qui nous a sauvé les fesses quand on était en difficulté en 2023-2024, c'est nos clients, c'est les Français. Et donc on se dit, ok, la suite de l'histoire, elle est avec eux. C'est pas, le temps politique, c'est pas le nôtre. Le temps de la subvention, de l'aide, de l'accompagnement, c'est pas le nôtre. Notre temps et notre seule raison d'être et raison d'exister dans le temps, c'est la compétitivité de l'entreprise, la génération de cash et d'EBITDA, parce que sinon on est mort. On a beau faire de l'impact, de ce qu'on veut. Aujourd'hui, les règles, c'est tu fais de l'EBITDA, du cash ou t'es mort. Ça, on l'a bien appris. Et donc, fort de cette année de retournement, de ces deux années de retournement, on se dit, ok, comment on fait rentrer les Français au capital de l'entreprise? Donc avec Léa, on se dit, ok, on regarde les scopes, on regarde les SIC, on regarde les plateformes de crowdfunding et on rencontre les équipes de Roland qui nous disent, et un certain Marc Fiorentino qui nous dit, mais Guillaume, la meilleure plateforme pour faire un investissement populaire, c'est la bourse. Et là, moi, je me dis, pas con. Et je me dis, mais c'est trop compliqué. Et Léa, à côté de moi, dit, Guillaume, on va le faire. Je lui dis, t'es sûr? Il me dit, ouais, on va le faire.
Comment ça s'est passé? Alors, parlons que de vous, ne parlons pas des partenaires.
Et derrière, comment s'est passé? On a déroulé avec une équipe de conseil autour de nous, toutes les briques, les avocats. On a recruté un directeur financier, Fabrice, qui nous accompagne sur ce spécifiquement, qui a fait déjà 4 IPO, parce que c'est quand même un monde compliqué. On a travaillé dans le bon ordre, on a fait travailler tout le monde en 4 mois et demi, ce qui est un record. On a fait le doc AMF. On a vraiment travaillé dans le détail. On était déjà accompagné par 2 fonds d'investissement, donc on avait cette structure financière. On est capable de sortir le chiffre d'affaires à l'heure, la marge.
C'est important ce que tu dis.
La marge par canal, chaque jour.
Parce que tu étais déjà structuré. Voilà.
Et donc, on est capable de sortir une clôture d'EBITDA tous les mois à J+10, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de boîtes qui sont capables de faire ça. Donc, on avait déjà la rigueur. De l'extérieur, le slip français, les gens peuvent se dire, ouais, c'est du marketing. En fait, oui, on est très fort en marketing, mais en fait, on avait la structure financière. On était capable de suivre et piloter la boîte, sauf qu'on achetait nos slips entre 12 et 15 euros en les fabriquant en France. Là, maintenant, on arrive à fabriquer nous-mêmes en dessous de 6 euros. Donc, on a un vrai modèle économique. Et donc, on a déroulé tout en faisant tourner la boutique. C'est difficile pour le dirigeant. Et quand on va chercher des entrepreneurs, c'est super de les booster, de leur faire des conférences avec qui veulent être mes associés. Mais il faut surtout leur dire, les gars, c'est du travail, des 100.
Mais ça, tous les entrepreneurs le savent.
En tout cas, il faut leur rappeler que c'est. Voilà, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas d'IA, il n'y a pas de truc magique. C'est juste du boulot et du temps. Et un jour, peut-être, dans un cas sur 1000, vous allez vendre votre boîte. Mais si vous vous levez avec ça le matin, vous n'y arriverez pas. En tout cas, moi, c'est mon expérience. Et donc, quand on coche toutes ces cases, on évacue toutes les options scope, SIC, on se dit, voilà, c'est pas notre philosophie. On se dit, ok, la bourse, c'est le bon moyen. On déroule le process. Et je crois que c'est, enfin, tu me l'as dit, le succès d'un IPO, ça se mesure à 2-3 ans. Faites ce que tu dis, dis ce que tu fais, et sur des, et voilà, under promise, over deliver, c'est pas français, mais nous, on s'engage là-dedans.
C'est hyper important.
C'est quoi ton conseil? Voilà, c'est un jeune. Jeune qui débarque sur la bourse. La bourse. Toi qui as 25 ans d'expérience sur la bourse, Jean-Michel.
La bourse, tout le monde parle de l'IPO, de levée d'argent, etc. Or, du point de vue financement de la boîte, la bourse, c'est une rivière. Donc, on peut revenir plusieurs fois. La deuxième chose, c'est que la bourse te donne une monnaie d'échange. Donc, tu peux acheter des boîtes. C'est quelque chose qui est liquide. La troisième chose, c'est que la bourse te donne de la rigueur. Tu es obligé d'être rigoureux. La bourse te permet de brasser plein de gens. Moi, j'ai beaucoup de clients. Moi, je suis en B2C dans IEVA. Tous mes clients peuvent être mes actionnaires et inversement.
Ça, je suis
donc, c'est hyper important. Alors, ce qui compte...
Quel conseil tu lui donnerais?
En France, under promise, over deliver.
En français.
Tu dois sous-promettre, sur-délivrer.
Il faudra trouver une bonne traduction en français, je m'en occupe.
Si tu fais la chose, honnêtement, même à des boîtes, on a vu des boîtes avec des capis en milliards sur Paris. Le matin, il est en dessous du consensus. Boom, moins 30 à l'ouverture.
Exactement.
Dans le temps, ils nous mettaient 2 claques. Moi, je me rappelle, quand on sous-délivrait, bon, on venait le matin, on prenait 2 claques. À la fin de la journée, on est à moins 9%. On rentre chez nous, on était plié. Là, à 10 heures, tu es déjà à moins 30.
Donc, c'est ça ton conseil. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil, Emmanuel?
Que effectivement, l'introduction en bourse, c'est une étape. C'est une étape qui doit être construite, mais je pense qu'il a complètement bien compris, il a bien décrit aussi le process. C'est une étape, ce qui amène à d'autres étapes, à de la communication, à un news loop régulier, à des catalyseurs, à un plan. Ça s'inscrit dans un plan stratégique. Et là-dessus, c'est ça qui est intéressant d'entendre, justement, parce que c'est la bonne vision. C'est un point de passage.
Alexis, vous avez bien soutenu cette opération. Qu'est-ce que tu lui donnerais, toi, comme conseil?
Moi, je crois que les meilleurs conseils ont été donnés par Jean-Michel, mais je pense que Guillaume, il a compris ce qu'il achetait en arrivant en bourse. En dehors de tous ses outils, il s'achète du temps long. Et d'avoir des actionnaires qui sont plus au pilotage de la boîte avec lui. C'est ça que je rajouterais peut-être en plus de ce qui a été
alors évoqué. C'est intéressant le temps long, parce que je me retourne vers toi Jean-Michel, ce que reprochent beaucoup d'entrepreneurs, hein, c'est de dire justement les investisseurs, ils sont court-termistes. C'est-à-dire, tu vois, tu viens de le dire, c'est-à-dire, ouais, on a eu un semestre qui n'est pas bon, bam, moins 30%, alors que les gens nous disent, ouais, mais de l'autre côté, toi tu connais bien le sujet, puisque à la BPI, vous faites aussi private equity, à la private equity, on est peinard pendant 5-7 ans, personne ne nous emmerde, le fonds, il est là, et il n'y a pas quelqu'un qui nous dit tous les jours.
En réalité, ça dépend ce qu'on fait. Ça veut dire qu'on a des, il y a des actionnaires sur Paris, la BPI justement. Mais moi, j'en connais plein de fonds qui sont Thomas, par exemple. Il est long. Il y a plein de gens qui sont. Moi, Gordion, il est long chez moi, etc. Donc, il y a des investisseurs qui sont longs. Il y a des investisseurs qui sont des spielers. Ok, mais il y a des investisseurs qui sont longs. On a besoin des deux parce qu'il y en a des gens qui développent la liquidité, d'autres qui sont là pour le long terme, etc. Mais ce qui compte vraiment, c'est un, ta rentabilité, t'achètes ton indépendance. J'ai rendu toutes mes boîtes rentables tout de suite.
Tu dis le contraire de ce qu'on disait tout à l'heure sur les boîtes américaines.
Non, oui, mais qu'on est en France. On n'est pas aux États-Unis. Moi, je dis toujours à tous les entrepreneurs cotés à Paris, vous n'êtes pas aux États-Unis. Vous ne ramenez pas l'Amérique à Paris. Paris, ce n'est pas les États-Unis. Donc, il faut être rentable parce que les gens, ils veulent de la rentable. Bon, OK. Et n'oublie pas une chose, c'est que tant que tu n'as pas vendu, tu es toujours dans le game. Et ne compte pas ton argent tant que tu es assis à la table. C'est la première base d'un pokerman.
Pour finir très rapidement, merci d'abord parce que c'est super intéressant. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre, Guillaume, toi qui arrives un peu de l'extérieur avec un œil neuf, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme initiative pour booster tout ça ?
Je crois qu'il faut faire confiance aux Français parce que parfois le bon sens de juste.
Mais pourquoi ils viennent pas ? Enfin, ils viennent, ils vont venir au slip, mais c'est pas la question.
Je pense qu'il faut. Il faut que nos entreprises françaises soient compétitives et s'adressent à leur marché intérieur.
Moi, je te dis, quelle initiative on peut faire d'un point de vue marketing ? Ce que fait, parce qu'ils n'arrêtent pas, hein, je veux dire, ils sont en province, ils rencontrent des entrepreneurs tout le temps, ils ont lancé une nouvelle chez Euronext, ils ont lancé une nouvelle démarche pour faciliter l'accès au retail. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus, nous tous, pour rendre le truc plus sexy ?
Moi, je crois qu'il faut aller voir les boîtes iconiques françaises, trouver de la compétitivité de performance économique et ouvrir ce capital-là aux Français. Et je pense que c'est beaucoup plus structurant que la bourse qui, de mon point de vue d'entrant, est un moyen et pas une fin en soi. Et je pense que ça, c'est structurant pour l'économie française.
Jean-Michel.
Une initiative, c'est très simple. Moi, si j'étais législateur aujourd'hui, je fais une décision. Je garde toutes les caractéristiques des assurances-vie à condition que 5% de l'assurance-vie soit investi dans
les small mid cap. Une autre initiative.
Pourquoi ça n'arrivera pas
Parce que les législateurs te disent on a déjà fait le PEA, vous avez le PEA PME, démerdez-vous avec ça. Mais et c'est déjà pas mal le PEA.
Oui, mais l'incentive il n'est pas très fort. Mais donc, par contre, nous, au-delà de législateur, nous, on doit évangéliser à fond et expliquer aux gens c'est quoi la bourse et qu'on peut gagner beaucoup d'argent en bourse.
Tiens, je te propose un truc. On va voir si on faisait un petit concours. Qui veut s'introduire en bourse ? Est-ce que tu serais juré avec moi ?
Quand tu veux.
T'es sûr ? Attention, c'est enregistré.
Ouais, quand tu veux. Michel, tu m'autorises. Hein.
Qu'est-ce que tu voudrais comme idée ?
Je suis assez optimiste, encore une fois. Je pense que écouter des personnes comme ça, c'est
motivant. Hein.
C'est ça qu'il faut faire. C'est leur laisser montrer que ça marche, montrer que ça existe. Et encore une fois, les jeunes, les influenceurs financiers, il y en a de plus en plus. Tu en fais partie.
Les influenceurs financiers, c'est important.
Ça va prendre.
Oui. Juste, explique-nous en deux secondes, il nous reste quelques secondes, ce que vous avez lancé comme initiative IPO.
Non, on travaille sur l'offre et la demande. C'était bien évoqué. En fait, c'est bien d'avoir des entrepreneurs, il nous faut de l'argent. BPI a lancé Blue Spring, CDC Croissance a lancé son premier fonds de fonds l'année dernière et a fini de le déployer.
500 millions.
TB3, c'est passé complètement inaperçu, vendredi, a annoncé 13 milliards, dont une partie significative va être allouée aux small et mid cap françaises.
Génial.
C'est la première fois.
Super bonne nouvelle.
Donc c'est exactement ce sujet, réallouer de l'argent. Et c'est qui va flécher cet argent ? Ce sont les assureurs. Donc il faut continuer là-dessus. Sur la partie offre, nous on essaye de simplifier de plus en plus l'accès pour les entrepreneurs à la cote. 4 mois, c'était évoqué par Guillaume, plus rapide, moins coûteux, moins complexe. C'est ce qu'on essaye de faire avec IPOGO, dont Jean-Michel est un soutien précieux.
Et on est là pour vous aider si vous en avez besoin. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous ces invités. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont on me dit dans l'oreillette qu'elle sera exceptionnelle. Surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous revoir, nous réécouter et encore nous revoir en replay, en podcast sur toutes les bonnes plateformes.
C'est votre argent. Émission spéciale Le Monde de Demain sur BFM Business.